Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Quels sont les objectifs de l'État islamique et pour quelles raisons beaucoup de jeunes, y compris des pays développés, le rejoignent ? L'État islamique se comporte-t-il différemment en Syrie et en Irak ? Quelle est sa position par rapport aux femmes, aux différents courants de l'islam et aux chrétiens ? Pourquoi le terme de Daesh s'est-il imposé dans les chancelleries occidentales ? Autant de questions auxquelles tente de répondre notre confrère de France 24, Wassim Nasser, spécialiste reconnu du terrorisme, dans un livre « État islamique, le fait accompli », publié chez Plon. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Christian Brunel à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Qu'est-ce exactement que l'État islamique ? Pourquoi la diplomatie française l'appelle Daesh, son nom en arabe ? Où ce groupe armé est-il né et comment est-il implanté ? En Syrie et en Irak ? Autant de questions auxquelles tente de répondre votre dernier livre, Wassim Nasser, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à France 24, spécialiste du terrorisme. Alors votre ouvrage, publié chez Plon, s'intitule « État islamique, le fait accompli ». En quoi y a-t-il un fait accompli dans cette affaire ?
Parce que quoi qu'il arrive... Même s'ils perdent donc cette guerre face à une grande coalition, à plusieurs pays de la région, la Russie et d'autres pays, ils auraient tout de même réussi à mettre en place leur système. Aussi condamnable soit-il, c'est un système politique qu'ils ont réussi à mettre sur pied. Parce que on n'est plus dans un schéma d'organisation. On est tout du moins dans un schéma d'un proto-État. Donc avec des administrations, avec une armée, avec des millions de personnes à administrer, avec des ressources, ils lèvent l'impôt. Ils prennent des taxes, ils ont même des bureaux de plainte des consommateurs, un système éducatif, islamiste, rigoureux, mais quand même un système éducatif, un système médical. Et quand même, ils font face, encore une fois, à une guerre des pays donc étrangers à la région et des pays de la région. Et quand même, ils tiennent bon depuis bientôt 4 ans. Donc, si c'est une organisation et un épiphénomène, et toute cette coalition qui s'agite autour de cet épiphénomène n'arrive pas à bout, ça dit long sur les capacités de cette coalition. Donc moi je dis non, ils ont un vrai système, ils ont une vraie assise populaire, une vraie implantation, ce qui les rend beaucoup plus dangereux et ce qui les rend beaucoup plus difficiles à déloger.
Alors vous revenez dans votre livre sur les débuts de cette organisation, de cet État islamique. Tout s'est passé en Irak dans les prisons américaines, si on comprend bien.
Oui, ça a commencé en tout cas, si vous voulez, l'embryon ou celui qui est positionné ou qu'on positionne, que les djihadistes positionnent comme l'inspirateur premier, c'est Abou Mansab Zarqawi. Donc c'est un Jordanien qui avait ses propres camps d'entraînement en Afghanistan, donc à côté de ceux de Ben Laden, d'Al-Qaïda, qui avait fui l'Afghanistan avec intervention américaine. Il a rejoint l'Iran. L'Iran, à cette époque-là, a rejoint beaucoup de djihadistes, dont la famille de Ben Laden aussi, et dont quelques grandes figures d'Al-Qaïda. Et donc, il est passé par l'Iran, il a transité par l'Iran, il était accueilli à Al-Abja, dans l'actuel Kurdistan irakien, en 2003, par les premiers djihadistes d'Irak, des Kurdes. Parce que l'idée de djihad, elle est transnationale et transethnique. Ça ne concerne pas que les Arabes. Ça concerne tout musulman, qu'il soit de naissance ou converti. Et donc, pour revenir à l'Irak, donc Zarqawi, il avait créé son groupe là-bas. Juste avant sa mort, il a voué allégeance à Al-Qaïda. Donc, il y a eu Al-Qaïda en Mésopotamie, reconnu par Ben Laden. Et puis, après sa mort, celui qui a pris la relève est rentré dans ce qui a été nommé l'Alliance des Moutayyibin en 2006. Et cette alliance-là, donc c'était une alliance entre Al-Qaïda, d'autres groupes djihadistes, quelques chefs de clan, pour créer ce qui est devenu l'État islamique en Irak.
Parmi eux, il y a d'ailleurs d'anciens militaires haut gradés de Saddam Hussein.
Parmi eux, il y a des militaires, je dirais pas haut gradés. Il y avait des militaires. Mais ça aussi, je développe dans le livre, pour être officier de l'armée de Saddam, il fallait être encarté au BAS. Mais ce n'est pas pour autant que l'État islamique actuel est une construction du BAS. Pas du tout. Parce que ceux qui se battent dans les rangs de l'État islamique sont des djihadistes convaincus. Ce n'est pas des bassistes. Et d'ailleurs, ils considèrent les bassistes comme des mécréants, comme des apostats. Et ils les tuent dès qu'ils peuvent en mettre la main sur un. Et aussi, donc, leur prouesse, si je puis dire, militaire sur le terrain, il faut les prendre à leur juste mesure. Ce n'est pas les officiers de Saddam qui ont aujourd'hui 90 ans qui ont des résultats. C'est quand même... L'Irak est en guerre depuis plus d'une décennie, 5 ans de guerre en Syrie, donc les gens ont eu le temps de se former et de s'aguerrir à l'art de la guerre.
Alors, quels sont les objectifs précisément de l'État islamique et pourquoi y a-t-il autant de jeunes, et notamment des Occidentaux, qui rejoignent le mouvement ?
Ben, l'objectif premier donc de l'État islamique qui a toujours d'ailleurs été son objectif, à la différence d'Al-Qaïda, c'est de combattre donc l'ennemi proche. L'ennemi proche, c'est les États de la région, c'est les chiites, c'est tous ceux qui s'opposent à eux, même parmi la communauté sunnite, dans la région, pour instaurer leur califat, l'imposer par la force, je dis même pas de ville en ville, mais de rue en rue. Ça, c'est leur projet premier, il est régional. Alors qu'Al-Qaïda a un projet international, donc, de frapper la tête du serpent, entre guillemets, comme ils disent, donc l'Occident, et d'après leur stratégie, ils estiment que les pays de la région vont tomber de même, les régimes, en tout cas, ils pourront à ce moment-là instaurer leur califat. Donc c'est la différence de fond entre les deux modes opératoires, même si le califat est la finalité. Mais bon, une fois que les projets de l'État islamique dans la région ont été contrés, et ils ont commencé à être contrés bien avant les frappes de la coalition en septembre 2014. Parce qu'au début 2014, déjà, les Occidentaux, avec l'aide des pays arabes, des monarchies arabes, ils ont réussi à retourner quelques factions syriennes, rebelles, pour qu'elles se battent contre les djihadistes. Et ça, on le dit pas assez aussi. C'est que la guerre contre l'État islamique a commencé bien avant les frappes. Parce que, à la différence, si je puis dire, des commentateurs, les décideurs ont bien compris le danger de cette entité qui est, encore une fois, transethnique, transnationale, et qui allait bouleverser les frontières de la région et qui n'a pas tardé à le faire, en tout cas, entre Syrie, Irak, Kurdistan. Aujourd'hui, tous les acteurs bouleversent les frontières, que ce soit les Kurdes, que ce soit les Iraniens qui envoient des milices à travers le Moyen-Orient aujourd'hui, ou les djihadistes qui frappent un peu partout. Donc le projet était régional. Mais une fois, il y a eu l'intervention occidentale directe, que ce soit par les avions ou au sol, parce que ça aussi c'est une réalité, on a compris que l'État islamique avait un coup d'avance. Donc il avait anticipé cette intervention. Et pourquoi je dis ça ? Parce que quand l'État islamique a commencé à kidnapper des journalistes occidentaux, c'était bien avant l'instauration du califat. Parce qu'il a anticipé cette intervention, et heureusement les journalistes français ont été libérés, et d'autres n'ont pas eu assez de chance, ils ont été exécutés. Et même en ce qui concerne les opérations en Europe, ils ont commencé à envoyer des gens, ne serait-ce qu'en éclaireur, entre guillemets, comme Mehdi Nemmouch, bien avant les revers sur le terrain. Quand on parlait de revers sur le terrain, ils ont quand même réussi à descendre un avion de ligne russe avec une canette de boisson piégée. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc, le terrorisme pour eux est un mode opératoire. Certes, il y a une sorte de défiance, une sorte de haine des systèmes démocratiques, parce que pour eux, c'est un système mécréant, mais ils ont aussi un ordre de priorité. C'est-à-dire, tant qu'ils étaient concentrés sur la région, maintenant qu'ils sont attaqués de toutes parts, ils utilisent le terrorisme à des fins politiques. Ils utilisent qui ? Des ressortissants occidentaux qui déjà, au moment où ils ont rejoint l'État islamique, ils avaient déjà cette haine de leur propre pays et donc ils sont prêts à frapper leur propre pays.
Alors l'État islamique est opposé à tout ce qui n'est pas islam sunnite ultra-conservateur. Quelle est la nature, par exemple, de ces relations avec les communautés chrétiennes de la région ?
Ben, ils ont une relation assez particulière. Ça veut dire pour eux, les chrétiens et les juifs, donc c'est les gens du livre, ils sont à soumettre, mais pas forcément à éradiquer. Donc il y a eu différence de traitement, par exemple, entre les chrétiens en Syrie et les chrétiens en Irak, pour des raisons très tangibles. Ça veut dire, en Syrie, j'ai eu, moi, l'occasion de suivre ça de très près, une église saccagée, les djihadistes eux-mêmes qui m'envoyaient les photos, et après j'ai compris que la communauté chrétienne de Raqqa, elle avait envoyé des représentants donc voir les djihadistes, ce que les djihadistes avaient demandé. Ils ont conclu une sorte d'accord, un accord d'IMI, donc à l'ancienne, où les chrétiens, on va pas aller dans le détail, mais je le développe dans mon livre, s'étaient soumis à un certain nombre de conditions, et l'État islamique leur a permis de demeurer dans ces territoires et de continuer à faire du commerce, voilà, mais avec beaucoup de conditions, par exemple, ne pas faire sonner les carillons, ne pas essayer de convertir les autres musulmans, et j'en passe. En ce qui concerne l'Irak, l'impact était complètement différent. Parce que en Irak, le clergé qui était à Mossoul n'était pas dans la ville même, il était plutôt à Erbil, à Bagdad, voire à Beyrouth. Il n'a pas voulu négocier avec l'État islamique pour des raisons compréhensibles. Ils ont eu peur d'envoyer des émissaires, de un, et de deux, c'était aussi une décision politique de ne pas donner ce gage moral ou cette reconnaissance, entre guillemets, même tacite, à l'État islamique en tant que négociateur. Donc ils n'ont pas voulu négocier. Et donc les chrétiens de Mossoul ont été poussés à quitter Mossoul, et ce qui a bien arrangé l'État islamique qui a mis la main sur tous leurs biens.
Et alors les femmes, puisque c'est l'autre partie qui pose problème, notamment vu d'Occident, comment l'État islamique se comporte-t-il avec les femmes ? Enfin, on en sait un petit peu. Et surtout, par exemple, avec les yézidis.
Les femmes yézidis, elles ont été soumises à l'esclavage, hein, ni plus ni moins. parce que pour eux, ils estiment que c'est de leur droit de les prendre comme esclaves en tant que communauté qu'ils estiment satanique. Et je développe un peu plus dans le livre. Hein, je vais plus dans le détail dans le livre. Et donc, c'est leur droit de faire ça, de les prendre en tant qu'esclaves. Mais par exemple, pour d'autres femmes, pour les femmes qui les rejoignent, hein, parce que ça, on n'en parle pas aussi beaucoup, elles ont un rôle primordial dans la construction de ce nouveau système étatique. Ça veut dire il n'y a pas d'État islamique sans les femmes de l'État islamique. C'est-à-dire l'idée qu'on a que c'est des, elles sont juste là pour faire des enfants et être dans la cuisine, c'est pas du tout vrai. Elles sont là pour former les prochaines générations. Elles ont un rôle clé dans l'embrigadement, un rôle clé dans la motivation des hommes et d'autres rôles au niveau administratif, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Mais il ne faut pas avoir un regard misogyne, en tout cas vis-à-vis des femmes qui rejoignent l'État islamique, parce qu'elles sont souvent moteurs de ce djihad.
Et on l'a vu avec un certain nombre de jeunes filles, parfois très jeunes, qui quittent la France, le Danemark ou l'Espagne pour rejoindre l'État islamique.
Tout à fait.
Un dernier mot concernant les jeunes qui partent faire le djihad. Récemment, dans l'émission Orient Hebdo, nous avons reçu l'ethnologue américain Scott Atran qui dit que l'État islamique est une révolution. Partagez-vous cet avis ?
Ah bah, tout à fait, c'est ce que j'ai dit aussi dans mon livre. Et je suis fort heureux que les gens commencent à mesurer ce qu'est aujourd'hui l'État islamique. Que ce n'est pas un groupuscule, ce n'est pas un épiphénomène. C'est une vraie révolution qui profite d'un vide idéologique. Aujourd'hui, ça veut dire les combats qu'on a connus ou qu'ont connus les générations du XXe siècle, que ce soit le panarabisme pour le Moyen-Orient, le socialisme, le communisme. Bon, ils existent plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas dans une société de consommation ou qui refusent même la société de consommation. Et il y a d'autres gens dans le tiers-monde qui sont tout à fait conscients que jamais ils vont avoir accès à la maison, la voiture, le petit chien et le boulot. Donc ils aspirent à autre chose, comme d'autres avant eux aspiraient à autre chose, que ça soit bien ou pas. Ça veut dire, à chaque fois qu'il y a un combat à mener, il est mené au nom du bien. Hein, même ceux qui ont rejoint l'Allemagne nazie, ils pensaient que c'était pour le bien de l'humanité. Et on connaît tous les atrocités de l'Allemagne nazie. Tous ceux qui ont rejoint l'Union soviétique, aussi, on connaît aussi aujourd'hui qu'il y a eu des atrocités en Union soviétique. L'époque stalinienne, personne ne doute une seconde des atrocités qui a eu lieu. Et aujourd'hui, les motivations personnelles pour ceux qui rejoignent l'État islamique sont en bonne partie révolutionnaires, mais contre tout, contre les États de la région, contre le capitalisme, contre l'islam coutumier, contre la puissance des clans dans la région, et c'est ça qui fait la force aujourd'hui.
Merci Wassim Nasser, journaliste à la rédaction de France 24, spécialiste du terrorisme. Je renvoie à votre livre « L'État islamique, le fait accompli », publié chez Plon.
Merci.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Christian Brunel pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian, comment vos médias parlent-ils de la conférence de Paris pour relancer les négociations de paix israélo-palestinienne ?
Eh bien, l'événement n'a pas vraiment fait la une des médias qui sont surtout contentés de rappeler que Benjamin Netanyahou a rejeté totalement cette initiative française en expliquant qu'elle ne pouvait qu'encourager les Palestiniens à se montrer, je cite, plus extrémistes. Pour les commentateurs, notamment des quotidiens Haaretz et Yedioth Ahronot, il est évident que le Premier ministre a ensuite tenté de combler le vide diplomatique ainsi créé en proposant aux pays arabes, notamment à l'Égypte, des pourparlers basés sur l'initiative de paix de la Ligue arabe datant de 2002. Cette initiative prévoit une normalisation des relations diplomatiques des pays du Golfe avec Israël, mais aussi un retrait total d'Israël des territoires palestiniens, ce qui explique pourquoi Benjamin Netanyahou préconise une révision de cette initiative. Mais comme le soulignent les médias, cette proposition du Premier ministre n'a aucune chance d'aboutir avec un gouvernement le plus faucon de l'histoire du pays.
Alexandre, vous, votre actualité cette semaine, c'est la livraison par la France du premier des deux navires Mistral à l'Égypte.
Oui, et la presse jubile puisque, selon Al-Shorouk, l'Égypte a rejoint le club très fermé des pays possédant des porte-avions. Alors, il s'agit du Gamal Abdel Nasser, un porte-hélicoptère d'assaut amphibie dont l'Égypte a officiellement pris possession jeudi à Saint-Nazaire. Avec ses 200 mètres, le Gamal Abdel Nasser, souligne la presse, est le plus grand bâtiment de l'histoire de la marine égyptienne. Les journaux se délectent en donnant des détails techniques du bâtiment. 16 hélicoptères d'attaque sont comptés, chars, blindés et hommes que l'Égypte pourra projeter. de l'ouest de la Libye, aux confins de la Crète au nord et même jusqu'au Golfe. Alors l'Égypte prendra livraison en septembre d'un second Mistral, le Anwar es-Sadat. Reste maintenant à trouver les hélicoptères d'attaque. L'Égypte possède une cinquantaine d'Apache américains, mais la presse parle de négociations avec la Russie pour acheter des Alligators K-52.
Autre actualité largement commentée dans vos journaux, Alexandre, la bataille de Fallujah en Irak.
Oui, une bataille cruciale pour la coalition anti-Daesh État islamique qui a occupé cette ville stratégique qui contrôle la route vers la Syrie. Alors, éditorialiste et commentateur analyse la complexité de la bataille et ses enjeux. Fallujah est une ville sunnite, tout comme Daesh. Les forces de la coalition sont hétéroclites. Il y a naturellement l'armée irakienne avec des factions sunnites et d'autres chiites, mais il y a aussi les milices chiites de Al-Hashd al-Sha'bi, celles sunnites de Hashd al-Anbar. Il y a enfin les milices iraniennes et les experts américains. Et puis, il y a les habitants sunnites de Fallujah qui servent de boucliers humains à Daesh, mais qui craignent aussi la vengeance des milices chiites.
Christian Brunel, cette semaine encore, Sarah Netanyahou a tenu la vedette.
Effectivement, l'épouse du Premier ministre continue à faire la une avec la saga de ses mésaventures. Un ancien employé de la résidence du Premier ministre a obtenu 30 000 dollars d'indemnité pour préjudice moral à la suite du traitement humiliant dont il a été victime de la part de l'épouse du Premier ministre. Le Pays Noir a raconté que Sarah Netanyahou lui avait par exemple ordonné de venir après minuit uniquement pour lui faire chauffer de la soupe. Et ce n'est pas tout, la police, malgré les réticences de son chef, Roni Asher, a recommandé des poursuites contre Madame Netanyahou, soupçonnée d'avoir utilisé des fonds publics à des fins privées pour payer des meubles de jardin et des réparations de la villa du couple à Césarée.
Alors également, Christian, cette vidéo d'un soldat israélien achevant un Palestinien en Cisjordanie et qui a, semble-t-il, eu un énorme impact médiatique.
Effectivement, l'affaire porte sur un soldat accusé d'avoir achevé en mars un Palestinien qui gisait par terre, blessé par balle, après avoir attaqué à coups de couteau un autre militaire. Le soldat, dont le procès devant une cour militaire est en cours, prétend qu'il a tiré parce qu'il se sentait en danger. Or, selon une nouvelle vidéo diffusée par les médias, on voit le Palestinien inanimé avec une longue traînée de sang provenant de sa tête. Une ambulance israélienne passe près de lui et un des passagers pousse du pied le couteau utilisé par le Palestinien qui se trouvait à une dizaine de mètres de lui pour le rapprocher et donner ainsi l'impression qu'il pouvait s'en servir. Ce document est jugé accablant pour le soldat, inculpé d'homicide, mais qui est considéré comme un héros par une bonne partie de l'opinion publique.
Et puis Alexandre, une nouvelle affaire d'excision en Égypte qui s'est terminée par la mort d'une adolescente de 14 ans à l'hôpital.
Oui, la presse accorde une large place, notamment aux déclarations du grand moufti, qui affirme que l'excision n'a rien à voir avec l'islam. Alors selon la presse, les mutilations génitales continuent à être largement pratiquées, même si elles sont passibles de 2 ans de prison. Alors selon une étude, 87% des Égyptiennes ont été excisées. Un mal qui touche les musulmanes, mais aussi les chrétiennes, surtout en milieu rural ou pauvre. Mais la presse note que l'excision a légèrement reculé chez les moins de 15 ans.
Et en Israël, Christian Brunel, vos médias ont retenu un jugement de la Cour suprême sur la prostitution.
En effet, la plus haute instance judiciaire du pays a émis un jugement qui a fait du bruit en déclarant légal le travail des prostituées officiant chez elles ou dans une maison close à condition qu'elles soient gérées par d'autres prostituées. Selon les juges, l'État doit tout faire pour réduire au minimum les risques encourus par ces femmes et d'ajouter que pousser des prostituées dans la rue pour exercer leurs activités viole, je cite, leur dignité de façon inacceptable. La Cour s'en est aussi pris à la police, accusée de traiter les prostituées de manière humiliante lors de descentes dans les maisons closes.
Merci Christian, merci Alexandre. À la réalisation, Vincent Biteau et François Porcheron. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. On se retrouve samedi prochain. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un journal d'information. Religion du